RFI, grand reportage, Charlotte Hudrac.
Bonjour, grand reportage nous emmène aujourd'hui en Iran, où la plupart des sanctions internationales ont été levées depuis l'accord qui a mis fin en 2015 à la crise du nucléaire iranien. Cet accord, le président américain élu, Donald Trump, a promis de le déchirer durant la campagne, ce qui fait planer une nouvelle incertitude sur l'avenir du pays après les années de sanctions. Alors, Iran, où en est l'ouverture? C'est un grand reportage de Nicolas Falaise à Téhéran.
Nous sommes à l'intérieur du palais Mehlat, dans l'extrême nord de Téhéran, au milieu d'un immense parc boisé. C'était l'une des résidences de la dynastie Pahlavi, la dynastie des Shahs d'Iran, renversée par la révolution islamique en 1979. Ici, on visite les salons et les appartements royaux. Il y a du marbre, des tapis persans, évidemment. Un luxe qui semble avoir été figé dans le temps par la révolution. Et c'est aujourd'hui l'un des sites touristiques que l'on visite à Téhéran.
Émerveillé par cette civilisation que je ne connaissais pas aussi riche.
C'est peut-être le signe le plus visible de l'ouverture de l'Iran. Des touristes occidentaux visitent désormais ce pays, comme ce groupe de Français qui achève à Téhéran un périple de 8 jours.
Je ne savais pas qu'il y avait autant de mosaïques, de mosquées, de paysages aussi magnifiques, puisque nous avons traversé deux déserts en venant de Shiraz et Yazd et Isfahan. Autour de moi, certains m'ont dit « mais c'est dangereux ». Non, absolument pas, à mon avis, absolument pas. Nous avions eu un programme qui nous proposait ce voyage culturel. Le climat international ne m'a absolument pas perturbé. Je me sens vraiment en sécurité dans ce pays.
Alors moi, je me souviendrai d'Isfahan par sa richesse architecturale, la beauté des mosquées, des mausolées.
Vous avez eu l'impression de visiter un pays qui s'ouvre, qui veut s'ouvrir?
Oui, moi je sens un pays très ouvert et très désireux de recréer des liens, de retisser des liens avec l'Occident.
Oui, un problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser la carte bleue. Or, on a pris l'habitude de vivre avec une carte bleue. Et on a découvert dans l'avion qu'on ne pourrait pas utiliser notre carte bleue internationale à Téhéran ni nulle part en Iran. Ce qui a posé quelques problèmes à certains. Donc il faut arriver avec un gros paquet de devises et puis changer au fur et à mesure. Bon, c'est pas très pratique. C'est sûr que c'est une petite difficulté quand on veut développer le tourisme, mais ça devrait s'améliorer à mon avis.
Impossible en effet d'effectuer un paiement ou un retrait par carte en Iran, pays qui reste coupé du système bancaire international. Mais cela ne décourage ni les touristes, ni les agences de voyage. Nous sommes au siège de l'agence Pardisan, sur l'une des principales avenues de Téhéran. Une vingtaine de salariés s'affairent dans les bureaux de cette agence de voyage, où le directeur commercial, Mehdi Shariati, confirme le regain d'activité.
Après l'accord nucléaire, nous avons reçu beaucoup de demandes. Je dirais 3 ou 4 fois plus. Par exemple, là où nous avions peut-être 10 groupes par an, nous sommes passés à des demandes pour 40 groupes par an. Donc nous avons plus de demandes et nous travaillons à en recevoir encore plus.
Quels sont les pays les plus représentés?
Divers pays, le Danemark, la Norvège, la Suède. Nous avons beaucoup de groupes qui viennent de France. Nous avons beaucoup de groupes venant d'Allemagne, d'Italie. Et bien sûr, beaucoup de groupes qui viennent de Chine, certains de Russie. Donc je dirais que les groupes sont nombreux et qu'ils viennent de partout dans le monde.
Qu'est-ce que cela implique pour votre agence en termes d'organisation? Est-ce que vous avez dû engager davantage de salariés pour faire face à cette demande?
Oui, face à ces demandes, nous avons augmenté nos effectifs au siège. Nous avons des employés qui parlent anglais, allemand, français et italien. Vous savez, nous attendons encore plus de clients à cause de la situation au Moyen-Orient. Actuellement, l'Iran est le pays le plus sûr de la région. Les Européens viennent ici, ils voient que c'est très calme, très sûr. Le seul problème concerne les hôtels et un certain nombre de services de base que nous devons fournir aux visiteurs. Notre capacité hôtelière est aujourd'hui insuffisante pour faire face à l'afflux de demandes. Donc nous espérons que des chaînes d'hôtellerie, de grandes chaînes d'hôtellerie, vont venir investir en Iran. J'entends déjà dire que beaucoup de compagnies viennent en Iran pour négocier, faire la promotion de leurs établissements et ouvrir de nouveaux hôtels. Donc c'est une industrie à forte croissance en Iran.
This industry is growing rapidly in Iran.
La galerie commerciale Paytart à Téhéran, sur plusieurs étages, uniquement des magasins d'informatique et de téléphonie. On trouve les derniers modèles d'iPhone ou d'ordinateurs portables. C'est ici que nous rencontrons Behrouz, 24 ans, qui vient faire réparer son téléphone. Behrouz vient de terminer ses études d'informatique. Il cherchera du travail dans ce domaine, mais seulement après son service militaire de 21 mois.
On a des attentes dans tous les domaines, vraiment. Le marché du travail, c'est catastrophique. Il n'y a aucune stabilité, tout est suspendu. Je ne sais pas si je vais trouver un boulot. Ce n'est pas bon. En Iran, il y a des attentes dans tous les domaines.
Est-ce que lorsqu'on a terminé ses études, comme vous en Iran, on est sûr de trouver un travail ?
Si tu connais quelqu'un dans l'administration, oui.
Qu'est-ce que vous cherchez comme type d'emploi ?
Je cherche un travail dans l'informatique, dans les réseaux. Mais même si tu es excellent dans ton domaine, c'est compliqué de te trouver une bonne situation.
Nous sommes dans le métro de Téhéran, sur la ligne 1. Des vendeurs à la sauvette arpentent la rame en se frayant un chemin parmi les voyageurs. Ils proposent des briquets, des piles, des chaussettes, des écouteurs de téléphone portable, toutes sortes de petits articles. Là, ce sont deux vendeurs de sacs qui se croisent et qui se disputent, visiblement mécontents d'être en concurrence.
Où en est aujourd'hui l'économie iranienne ? Posons la question à l'économiste Saïd Leilaz, considéré comme proche du président iranien Hassan Rouhani.
Le gouvernement a réussi au-delà de ce à quoi je m'attendais. La croissance dépasse les 5%. À mon avis, c'est le meilleur score et la plus grande réussite dans tout le Moyen-Orient. Nous n'avons pas de bons résultats en ce qui concerne le taux de chômage. Il est à 12,5% aujourd'hui et cela va continuer de grimper, principalement pour des raisons démographiques. Car chaque année, il y a plus d'un million de nouveaux demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché du travail. Monsieur Rouhani a réussi à créer entre 700 et 750 000 emplois par an. Résultat, le taux de chômage augmente lentement et c'est l'un des principaux problèmes de ce pays. Un autre très gros problème, c'est le manque d'investissement. Dans les 10 mois qui ont suivi l'entrée en vigueur de l'accord nucléaire, nous n'avons pas été capables d'attirer suffisamment de capitaux et d'investissements. Le troisième problème, très important, c'est le manque de productivité. Mais le plus gros problème, à mon avis, celui qui crée et qui va continuer à créer les plus gros obstacles, c'est la corruption. Dans le contexte actuel, personne n'est en mesure de résoudre ce problème, car nous avons besoin d'un système judiciaire fort, sain et indépendant, et nous ne l'avons pas.
Quelle est la perception du citoyen iranien, du consommateur iranien, de l'évolution de la situation économique de son pays depuis l'accord nucléaire ?
Le taux d'inflation a très nettement diminué. Nous avons une inflation à un chiffre actuellement, ce qui est inédit depuis 30 ans en Iran. Le pouvoir d'achat augmente, mais pas très vite. Par exemple, le nombre de voitures particulières que nous produisons ici a augmenté par rapport à l'année 2013, ce qui signifie que les gens ont les moyens d'acheter ce genre de nouveaux produits.
La situation va s'améliorer, mais n'oublions pas qu'il va nous falloir encore 2 ou 3 ans pour revenir au niveau de 2011, car nous avons perdu une décennie durant la période des sanctions et durant la période de l'ancien président Ahmadinejad.
Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, principal dirigeant du pays, est intervenu en personne pour empêcher le retour de l'ultra-conservateur Mahmoud Ahmadinejad, qui a présidé l'Iran de 2005 à 2013. Celui-ci envisageait de se présenter de nouveau à l'élection présidentielle de 2017. Lors de ce prochain scrutin, le modéré Hassan Rouhani briguera un second mandat de 4 ans. Il a été élu sur la promesse d'obtenir la levée des sanctions, c'est chose faite. Désormais, Hassan Rouhani estime que son pays a besoin chaque année de 30 à 50 milliards de dollars d'investissements étrangers.
Je m'appelle Aryabhod Dehnad, je suis consultant en stratégie basé à Téhéran. Je suis donc d'origine iranienne, mais je suis aussi un petit peu germano-français. Voilà.
Aryabhod, est-ce qu'on peut dire que votre parcours professionnel ces dernières années en Iran et hors d'Iran finalement a suivi la courbe de l'évolution des sanctions internationales qui pesaient sur l'Iran?
Oui, tout à fait. J'ai vu tous mes clients, vraiment tous, quitter le pays l'un après l'autre, et que pour nous, il n'y avait plus lieu de rester travailler en Iran puisqu'on n'avait plus de clients. Donc on a mis vraiment notre activité entre parenthèses pendant 4 ans.
Et c'est la signature de l'accord nucléaire l'année dernière qui vous ramène à Téhéran.
Exactement, le plan d'action conjoint qui a été signé en juillet 2015 et avec la levée des sanctions qui frappaient le programme nucléaire iranien en janvier 2016, on a eu de nouveau des opportunités, on a vu de nouveau des opportunités sur le marché et d'où notre retour en Iran. On est passé d'une période très difficile qui a duré pendant 4 ans, je dirais bien 4 ans, à partir de 2012, à une période aujourd'hui durant laquelle on voit beaucoup de délégations étrangères venir en Iran et montrer leur intérêt à investir dans le pays. Je pense qu'on avait rarement vu autant de délégations étrangères commerciales venir pour faire évaluer le marché iranien. Je pense qu'avant 1979, on avait rarement vu ça.
Comment ça se passe aujourd'hui? Une entreprise vient vous voir en disant il n'y a plus les sanctions, je veux travailler en Iran, comment dois-je faire? C'est ça l'idée?
Oui, l'idée c'est ça, c'est que très souvent les entreprises trouvent qu'il manque de transparence et qu'ils ont besoin d'avoir une vraie stratégie d'entrée sur le marché, savoir comment pénétrer le marché, avec qui travailler, la concurrence, le même type de travail que les entreprises à chaque fois mettent en place pour pénétrer un nouveau marché. En Iran, il est un petit peu, peut-être dans l'état actuel des choses, un petit peu plus compliqué, mais en tout cas les retombées sont d'autant plus importantes.
Elles sont dans quel état d'esprit aujourd'hui, ces entreprises occidentales gourmandes mais encore un peu inquiètes?
Je pense qu'elles sont encore inquiètes, notamment à cause du système bancaire qui ne fonctionne pas encore normalement. Aujourd'hui, un des grands problèmes des banques françaises, par exemple, c'est les sanctions qu'ils pourraient subir sur le marché américain. Ceci concerne les sanctions primaires qui n'ont rien à voir avec le nucléaire, comme vous savez.
L'accord de 2015 a porté sur les sanctions internationales liées au programme nucléaire iranien. Restent d'autres sanctions qui peuvent avoir un effet sur n'importe quelle entreprise de n'importe quel pays.
Exactement, il y a les sanctions primaires qui sont là à partir du début des années 80 du siècle dernier. Sont des sanctions qui pourraient encore frapper les entreprises américaines et les entreprises européennes qui sont en activité aux États-Unis.
Une banque française, BNP Paribas, a payé près de 9 milliards de dollars d'amende aux États-Unis pour avoir violé l'embargo américain visant plusieurs pays, dont la République islamique d'Iran. De quoi refroidir les banques européennes et elles ne se bousculent pas pour travailler avec l'Iran. une situation que Hossein connaît parfaitement. Barbe et chevelure grise, Hossein est le directeur commercial d'une société iranienne. Pour lui, travailler avec des partenaires étrangers est un casse-tête quotidien.
Our activity is, desalination. Water desalination.
Notre activité, c'est la désalinisation. La désalinisation de l'eau de mer. Vous savez, dans ce domaine, les produits les plus utilisés sont américains. Donc, on a beaucoup de mal à les importer. Et surtout, nous avons beaucoup de mal à transférer l'argent, ouvrir les lettres de crédit, enfin, ce genre de choses, quoi. Le plus compliqué, c'est le transfert d'argent, parce qu'en Europe, il n'y a que la banque EIH, Europäische Iranische Handelsbank, qui accepte l'argent venant d'Iran. Je voudrais transférer de l'argent ou des lettres de crédit à Oberbank ou UniCredit Bank ou plein d'autres banques de ce genre, mais je ne peux pas. Je dois aller voir d'autres banques pour atteindre mon but et pour réussir enfin à envoyer de l'argent. La conséquence des sanctions, c'était, et cela reste encore, une forte augmentation des coûts, parce qu'on doit trouver un autre partenaire dans un pays tiers afin de faire parvenir l'argent en passant par ce pays. Ce sont surtout les Émirats arabes unis, parfois la Turquie ou d'autres pays. Et cet intermédiaire, eh bien, ça augmente les coûts. Donc, si cet obstacle était levé, vous pouvez imaginer que cela réduirait les charges qui pèsent sur les affaires.
On utilise toujours ces moyens que l'on utilisait au plus fort des sanctions.
Yes, still we are doing that, and of course.
Oui, oui, nous faisons toujours ça, bien sûr, mais je suis en train d'ouvrir une lettre de crédit pour l'Europe et je viens d'apprendre qu'Oberbank l'accepte. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour nous, c'est une bonne nouvelle. Nous attendons la levée de toutes les sanctions, bien sûr, si Donald Trump l'accepte.
Ça veut dire que ça vous inquiète ?
Tout le monde est inquiet. Tout le monde est inquiet pour le devenir des États-Unis, pour le devenir de notre accord. Tout le monde est inquiet. Même aux États-Unis, ils s'en inquiètent.
Le 9 novembre 2016, la télévision iranienne diffuse les premiers mots de Donald Trump qui vient de remporter l'élection présidentielle aux États-Unis. Pendant sa campagne, l'homme a promis de déchirer l'accord nucléaire. Son arrivée à la Maison-Blanche peut-elle replonger l'Iran et toute la communauté internationale dans la crise et la menace d'un conflit ? Officiellement, les dirigeants iraniens ne manifestent aucune inquiétude. L'économiste Hossein Rahfar dirige l'Institut pour la recherche économique. Lui fait partie de ces Iraniens qui espèrent que l'élection de Donald Trump aura des conséquences positives pour l'Iran.
I personally expected that the United States president would be Donald Trump.
Personnellement, j'espérais que Donald Trump deviendrait le président des États-Unis. C'est important de savoir qui est au pouvoir aux États-Unis, qui est à la Maison-Blanche, car ils sont la seule puissance capable d'avoir une réelle influence sur les peuples de la région. Malgré les promesses de Donald Trump durant sa campagne électorale, sa promesse de détruire l'accord nucléaire, je pense qu'il serait coûteux pour les États-Unis de tourner le dos à un tel accord avec l'Iran. Aujourd'hui, une immense majorité d'Iraniens soutiendrait la reprise de nos travaux nucléaires si les Américains déchiraient l'accord, car les Iraniens n'ont pas encore reçu ce qui leur a été promis. Donc, je suis optimiste en ce qui concerne l'accord nucléaire. Et là où je vois du positif dans la personnalité du futur président Donald Trump, c'est qu'il n'est pas un va-t-en-guerre, contrairement à sa rivale, Madame Clinton. Tout cela peut porter ses fruits dans la région, car Donald Trump pense comme un businessman, pas comme un politicien. Pas comme un politicien américain classique. Donc, même si ce n'est pas un changement radical, nous espérons qu'il peut, dans une certaine mesure, changer la politique étrangère américaine, et en tout cas vis-à-vis de l'Iran.
Il Iran, où en est l'ouverture ? Reportage Nicolas Falaise, réalisation Jérémy Bessé.